France Culture.
Et voici venir la seconde partie des midis. À 13h, je serai en compagnie de Guillaume Poix. On parlera de son nouveau roman, Perpétuité. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La France poursuit son travail au long cours de restitution d'objets d'art spoliés. Le ministère de la Culture a annoncé la semaine dernière que 3 tableaux de Fedor Lovenstein, peintre juif tchécoslovaque, ont été rendus à la famille de l'artiste après plus de 80 ans dans les réserves du Louvre, puis du musée d'art moderne. Fin août, ce sont 3 crânes coloniaux conservés dans des collections publiques qui ont été remis par la France à Madagascar. Donc le mouvement de restitution est effectivement à l'œuvre, mais se pose la question des conditions que l'on impose encore au pays d'origine pour récupérer ces objets. Et c'est le dossier du Point Culture du jour. Saskia Cousin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous enseignez la sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Pour commencer, est-ce que vous pourriez cartographier l'état des restitutions en 2025? Est-ce que le mouvement est réellement en place? Et quelles sont par exemple les dernières restitutions faites par la France?
Alors, si on cartographie les restitutions en 2025, il faudrait surtout s'intéresser à toutes les autres restitutions qui ont été faites par les pays européens, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. En France, on en est resté, donc il y a eu 2 lois déjà qui ont été votées sur la restitution des biens aux familles juives spoliées et sur la question des restes ancestraux. Mais pour ce qui concerne la restitution des biens spoliés, en particulier en Afrique, on en est resté à des lois d'exception et donc il y a eu 26 objets qui ont été restitués au Bénin, un au Sénégal et un à la Côte d'Ivoire.
Et est-ce qu'on va passer à une loi cadre bientôt ou est-ce qu'on va rester à ces lois d'exception ?
Alors l'objectif d'un projet de loi qui devait être soumis à l'Assemblée ces jours-ci, c'était justement de passer à une loi cadre, puisqu'on ne va pas refaire une loi pour chaque objet demandé, évidemment. Cette loi a fait l'objet de plusieurs moutures, il a été retoqué par le Conseil d'État, et là il devait être présenté dans une nouvelle version qui paraissait intéressante. L'idée étant d'élargir en fait la question des restitutions, non pas juste aux biens spoliés en Afrique, mais dans l'espace, donc à l'ensemble du monde, dans le temps, entre 1815 et 1972, et avec une idée phare qui était les biens qui ont été fait l'objet d'une appropriation illicite. Donc ça, c'est très important de distinguer l'illicite de l'illégal.
Alors, on comprend bien la démarche côté institutions françaises et européennes. Vous évoquez l'Allemagne, en effet, qui fait un gros travail en ce moment. Mais comment ça se passe localement? Parce que les pays d'origine vers lesquels les objets retournent n'ont pas les mêmes usages en termes de muséographie, par exemple. Est-ce qu'on les prend en compte?
Je ne sais pas ce que vous entendez par usage, parce qu'on a tous des usages différents, si vous voulez. Par exemple, je ne sais pas, une statue de vierge exposée dans un musée, la relation que le visiteur va avoir avec cette statue va être différente selon s'il est catholique, par exemple, si c'est une vierge catholique ou pas. La question des musées aussi, elle est souvent vue d'un prisme français, hein, qui a, pour des raisons historiques, extrait toute sacralité et toute vitalité, mais il y a plein d'autres formes de musées. Il y a des musées autochtones où les objets rentrent et sortent, font l'objet de rituels, et puis ensuite reviennent. Voilà. Donc, on ne peut pas faire des généralités. Il y a des musées aux standards internationaux dans tous les pays et il y a des musées qui vont prendre en charge en fait, la question de la vitalité de ces choses. Et puis, il faut dire aussi qu'à l'échelle mondiale, il y a une grosse transformation des manières de conserver, de penser la relation à ces objets qui n'est pas forcément pris en compte en France actuellement.
Alors, je reviendrai sur cette histoire de vitalité du point de vue anthropologique parce que je trouve que c'est une question passionnante concernant les objets. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand la France restitue un objet, on demande des garanties? Je ne sais pas si ce sont des garanties de conservation, de sécurité à des musées et que ces garanties-là font un peu européennes dans le sens où en fait on n'a pas forcément les mêmes besoins d'où l'on parle, selon d'où l'on parle.
Alors moi, ce qui je trouve étrange, c'est qu'on demande des garanties. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout le problème en fait des discussions qui a lieu autour des premiers projets de loi. Hein, c'est que c'est la conditionnalité. Mmh. On vous rend des objets à condition que ça soit exposé de manière patrimoniale, etc. Qu'est-ce qui définit une exposition patrimoniale? Donc ça, il y a un vrai problème. Après, il y a des mesures de conservation dont on sait, en fait, par exemple, on a pollué, intoxiqué des objets en Europe à coup de produits chimiques. Il y a d'autres façons de faire et il y a d'autres façons de conserver. Moi, ce que j'aurais plutôt vu dans le cadre des programmes que je coordonne avec les collègues des pays concernés, c'est justement la difficulté... en fait, de sortir, pour beaucoup de musées africains, de sortir de cette conditionnalité des conservations, alors même qu'eux pourraient avoir d'autres propositions qui sont par ailleurs validées de façon internationale.
Alors justement, certains objets qui étaient exposés dans nos musées ont un pouvoir symbolique fort, certains doivent être activés par des rituels par exemple. Comment aujourd'hui on prend en compte tous ces aspects-là de l'objet justement dans ces musées, dans d'autres pays que l'Europe ?
Alors, il y a deux choses. C'est, les choses peuvent revenir dans les pays, donc ça c'est une question de souveraineté, on restitue, et ensuite ils peuvent être exposés dans des musées. Et ces musées, en fait, sont une pluralité. Au Bénin, il y a un enjeu de penser un musée, on va dire, plutôt à la française. Au Nigeria, il y a eu l'idée de restituer, et c'est le cas dans d'autres musées, à Loba, qui a son propre musée, et le fait qu'il rentre, en fait, dans... il redevient propriété du descendant du roi qui a été spolié, lui redonne en fait une sacralité. Et cet Oba a objectif, enfin a contractualisé et doit s'engager à assurer la préservation et la sécurité de ses objets dans l'intérêt de l'humanité. Après qu'il fasse l'objet de rituels, etc., c'est autre chose. Donc c'est très important de dissocier l'œil du visiteur, du regard de ce qui va se passer. Par exemple, en 2022, à Cotonou, j'ai pu observer, on est très nombreux à avoir observé la façon dont ces objets qui avaient été exposés de façon très française, sous vitrine, parce qu'il y avait cette conditionnalité, hein, faisait l'objet en fait de prières, de chants, des personnes, donc une réappropriation par le public très importante.
Donc si je comprends bien, un objet qui a été exposé ici, par exemple à Paris, en vitrine, peut, une fois qu'il est restitué, revenir à un usage rituel ?
Oui, enfin, il pourrait, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à pas penser qu'il y a d'un côté des rituels qui se passeraient d'une certaine manière et de l'autre côté des musées qui protégeraient, qui conserveraient. Il y a plein d'exemples, en fait, notamment les musées autochtones où ça se passe autrement. En fait, ce qui est important, c'est aussi c'est pas la question de activer, désactiver, tout ça, ça c'est un peu un discours, je pourrais même dire, de ritual washing, hein. On a cette idée que on va faire venir quelques chefs, ils vont venir faire un rituel dans le musée et après ça sera activé. Non, la question c'est ces choses, en fait, ces objets, ces œuvres, elles ont été produites par des gens qui y ont mis de la beauté parce que cette beauté, elle permet d'activer une relation avec les mondes vivants, les mondes invisibles. Le fait qu'elles soient sorties des mondes dans lesquels elles ont été produites, le fait qu'elles soient de toute la vitalité leur a été enlevée, en fait, elles ont enlevé de leur beauté. Moi, on m'a dit, au Bénin notamment, ces objets ont été maltraités dans les musées français. Ils ont été mal nourris, ils ont été mal reçus, ils ont été mal visités. On leur a pas fait ce qu'il fallait, au sens le type de relation qui était attendue. Mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté, notamment responsables de culte, ne voient pas forcément le problème. C'est pas un problème que ça soit dans un musée. La question, c'est le type de relation que nous allons avoir avec elle et le fait qu'elle puisse sortir lorsque c'est nécessaire.
Bien, merci beaucoup, Sacia Cousin. C'était très clair. Merci.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, l'ancienne ministre de la Culture est nommée directrice de L'Orient le Jour.
Oui, on vient de l'apprendre. Rima Abdoulmalak, qui fut à la tête de la rue de Valois de mai 2022 à janvier 2024, sera la directrice exécutive du quotidien libanais francophone. À partir du 10 novembre prochain, elle a déclaré à l'AFP vouloir élargir l'impact du journal et développer son rayonnement à l'international.
La rentrée littéraire agitée par une nouvelle affaire.
France Inter a révélé que plusieurs écrivains avaient reçu des critiques négatives sur la plateforme Babelio dès le mois de juin, soit plusieurs semaines avant la sortie de leur livre en librairie. Dans le même temps, des commentaires élogieux ont été adressés à un autre ouvrage de la rentrée littéraire. Alors contactée par plusieurs éditeurs, la plateforme sur laquelle 500 000 critiques sont laissées chaque mois a assuré avoir remonté la piste de tous ces commentaires qui proviendraient de la même adresse IP. Il s'agirait donc d'une écrivaine qui aurait critiqué les livres de ses concurrents afin d'exister davantage dans la très concurrentielle rentrée de septembre. Babelio a assuré depuis avoir mis en place un nouveau système afin de sécuriser les activités suspectes. Et si le nom de l'autrice a commencé à fuiter, il n'a pas encore été révélé publiquement. Affaire à suivre.
Aux États-Unis à présent, l'autocensure gagne du terrain.
Oui, après l'éviction temporaire du présentateur star Jimmy Kimmel par la chaîne ABC suite à ses propos sur le meurtre de Charlie Kirk, une autre annonce témoigne des menaces planant autour de la liberté d'expression outre-Atlantique. Dans un communiqué paru hier, Apple reporte la sortie de sa série The Savant, qui devait être diffusée à partir de vendredi sur sa plateforme. La série réalisée par Melissa James Gibbons raconte l'histoire d'une enquêtrice qui infiltre des forums de suprémacistes américains.
Et pour finir, Marie, le prix littéraire de la vocation 2025 a été remis hier.
Et c'est le primo-romancier congolais Steve Agandé qui est le lauréat pour son livre Bahari Bora, paru aux éditions Récamier. L'auteur nous plonge dans la guerre civile en République démocratique du Congo en nous racontant l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui parvient à s'enfuir après avoir été retenue captive par des rebelles. Créé en 1976, le prix littéraire de la vocation offre chaque année 10 000 euros à un auteur d'expression française âgé de 18 à 30 ans.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.